Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer.
Ce matin, parler de la confiance, hein, notre confiance que nous avons en Dieu, mettre notre confiance en Dieu. Quelqu'un a prié en disant, je ne sais plus en substance, quelque chose comme mon Dieu ne m'abandonne pas ou quelque chose comme ça. Et c'est une bonne prière. Si on est dans une situation très difficile, eh bien, c'est une prière légitime. Du reste, par exemple, David a souvent prié des prières de ce sens-là. Mais sa conclusion, c'était aussi qu'il mettait sa confiance en Dieu et qu'il croyait, il savait, il expérimentait même que Dieu le prenait soin de lui, le secourait. Donc, ce n'était pas seulement juste une prière comme ça, comme une demande, mais c'est quelque chose qui est formulé comme en même temps comme l'affirmation qu'il croit et qu'il va y avoir un résultat. Un jour, on m'a raconté cette histoire, je crois que c'était en Afrique, il y avait un endroit où il n'avait pas plu depuis très très longtemps. Alors, toute la contrée était desséché, c'était catastrophique, hein, parce qu'il fallait absolument de la pluie, Et alors un jour, le pasteur a dit, bon, dimanche nous allons prier pour la pluie, et si vraiment on prie tous avec foi, ayons confiance que Dieu va nous répondre. Venez dimanche, on va prier spécialement, on va prier que pour ça, on va prier pour que la pluie vienne. Alors ils se sont réunis tous le dimanche et à la sortie du culte, quand ils sont sortis, il pleuvait, donc tout le monde était content, ils étaient réjouis, ils sautaient de joie parce que c'était vraiment vital. Alors ils étaient il y avait un petit préau comme ça, enfin une petite avancée comme ça, ils tombaient des cordes, alors ils étaient serrés comme ça sous ce petit préau en regardant la pluie qui tombait. Et puis tout le monde se disait, ah voyez, nous avons bien prié, Dieu nous a exaucés. Et quelques-uns ont dit, oui, moi j'avais vraiment la foi, je sais que vraiment Dieu m'a exaucé. Et c'était un petit peu à qui se prévélait d'avoir prié avec le plus de foi. On a toujours beaucoup de foi quand l'exaucement est déjà arrivé, hein. Et puis, à un moment, ils ont vu, il y avait une petite fille qui était là, et la petite fille avait avec elle un petit parapluie. Alors elle a pris son petit parapluie, elle a déployé son petit parapluie, et elle est partie sous la pluie. Alors le pasteur a dit, voyez, la seule qui a vraiment prié avec foi, c'est elle. Parce qu'elle est venue avec un parapluie. Mais nous ne sommes même pas venus avec quoi que ce soit pour la pluie. Nous avons prié pour la pluie, mais personne ne s'est comporté comme s'il pensait qu'à la sortie du culte, il pleuvrait. Elle est venue, on est venu prier pour la pluie, elle est venue avec un parapluie. C'est elle qui avait la foi pour qu'il pleuvrait à la fin du culte. Elle seule. Nous tous, non. Elle avait confiance que si on prie, Dieu répond. Et si on a confiance et si on a la foi, on se comporte avec foi. Parce que la foi n'est pas une denrée théorique. La foi doctrinale ne mène qu'aux doctrines. mais si c'est juste une espèce de persuasion, de croyance, quelque chose dans la tête, quelque chose d'intellectuel, mais ça sert royalement à rien du tout. Il vaut mieux en avoir un tout petit peu de foi pratique, mais agissante, qu'une sorte de grande foi, de grande démonstration, qui serait seulement quelque chose de scripturaire, mais qui ne produit rien. Où est aujourd'hui notre foi, notre quantité de foi? Quelle sorte? Un des aspects, je pense, vraiment fondamentaux de la foi, je pense, c'est la confiance. Et peut-être la foi, c'est pas que de la confiance, mais une grande partie, c'est de la confiance. Est-ce que nous connaissons Dieu avec confiance? Est-ce que la relation que nous avons avec Dieu est une relation vraiment de confiance, comme une personne, vous savez, comme un ami avec un ami. Quand on est ami depuis longtemps avec quelqu'un et qu'on a eu l'occasion ensemble d'affronter des choses difficiles, de partager des choses difficiles, on a pu se démontrer mutuellement qu'on pouvait avoir une sorte de confiance qui est, j'allais dire, quasiment aveugle, quoi. Il faut avoir, pour être sûr de la confiance qu'on a en quelqu'un, il faut avoir eu l'occasion de l'éprouver, il faut avoir traversé des moments un peu difficiles, par exemple. Hein. Quelqu'un a dit que pour être sûr d'un ami, il faut avoir eu l'occasion avec lui de partager de l'argent, de partager, par exemple, quand on, dans les héritages, c'est quelquefois révélateur, les héritages, dans certaines familles. Tout le monde s'entendait très, 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 très bien. On était une famille très, 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 très unie, jusqu'au moment où il a fallu faire l'héritage. Et puis alors là, tout est parti en désordre. Hein. Des divisions, des problèmes, des querelles, des jalousies, voire même des luttes terribles, des gens qui ne se sont plus parlé pendant des années et des années, parce qu'on partageait un petit magot, des fois même pas bien gros. Et là, tout d'un coup, on s'aperçoit que la confiance qu'on avait dans nos relations était une confiance qui était illusoire. Elle était pas réellement, c'était pas vraiment vrai. Et si nous avons avec Dieu une forme de confiance, une confiance pratique, une confiance démontrée, Dieu sait quelle sorte de confiance il peut avoir en nous. Quelquefois, vous savez, des fois on a des grands élans, un peu héroïques, non? Hein? Surtout quand on sent la présence de Dieu, on sent l'onction de Dieu. Alors des fois, on dit à Dieu des choses telles que, comme on a chanté, « Jusqu'au bout, je veux te suivre. Hein? » Bon, suivre quand on est assis, c'est quand même plus facile, quoi. Hein? Mais suivre quand on va quelque part, des fois, c'est un peu plus difficile. Ou des fois, on dit « Seigneur Dieu, tu peux compter sur moi. » Bon, Dieu nous regarde. Bon, il est content qu'on le dise quand même, hein? Hein? Mais il sait ce que ça veut dire et quel est le contenu réel. Par contre, lui, dans l'autre sens, quelqu'un l'a redit tout à l'heure, dans l'autre sens, n'a jamais déçu personne. Ça, j'aime beaucoup rappeler ça parce que c'est très important. On peut être déçu de tout, de soi-même surtout, hein, d'abord, si on est lucide un petit peu, mais on peut être déçu des gens, on peut être déçu de tout, même quelquefois de je sais pas moi, des ministres par exemple. On peut être déçu de tout, non, je ne vais pas les ministres du culte, je veux dire les autres, mais on peut être déçu de tout, mais pas de Dieu. Quand on a l'impression qu'on est déçu de Dieu, c'est seulement qu'on a mal compris. C'est seulement qu'on a mal vécu quelque chose avec lui. Mais si Dieu, lui, bon, sait jusqu'où il peut avoir confiance en nous, mais il a confiance dans ce que lui, Dieu a confiance dans ce que lui, il a mis en nous. Parce qu'il sait qu'il a réellement mis en nous des capacités. Il sait qu'il a mis en nous son Saint-Esprit. Et Dieu ne va pas se décevoir de lui-même. J'aimerais lire pour prendre un premier point qui parle de confiance dans Matthieu 6. Alors, des passages qu'on connaît très très bien. Hein. Matthieu 6, dans Matthieu, hein, tout le monde sait que Matthieu, les chapitres 5, 6, 7, c'est ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Et puis au milieu, vous avez, dans le chapitre 6, vous avez cette prière qu'on appelle le Notre Père, hein, qu'on appelait dans le temps le Pater Noster, peut-être qu'il y en a qui l'ont connu sous cette forme-là, non? Hein? Est-ce qu'il y en a qui le savaient en latin? Oui? Hein? Bon, écoutez, on laisse tomber, hein? On ne va pas le réciter en latin ce matin, ni en breton, ni... Alors, on va prendre seulement les versets un peu plus loin, chapitre 6, verset 28. 28, 6, 28. Pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Alors, si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui, qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc pas. Ne dites pas, oh, qu'est-ce qu'on va manger? Et on boira quoi? Et on va s'habiller comment? Mais toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre papa qui est dans le ciel, il sait que vous en avez besoin. Alors cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu, et puis alors tout ça, ben, vous le recevrez en plus. Ne vous inquiétez pas de ce qui arrivera demain. Demain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Oui? Est-ce que la doctrine de Jésus est très intellectuelle? Est-ce qu'elle est difficile à comprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose de pénible qui exige un effort intense pour rentrer dans la substantifique moelle de ce que Jésus nous dit? Mais non, c'est vachement simple. Seulement, ce qui est difficile, c'est pas à comprendre, comme disait le pasteur tout à l'heure. Ce qui est peut-être qui peut poser des problèmes, c'est à appliquer. Est-ce que par rapport à ces choses-là, on est tous très très clairs avec ça? Qui se fait du souci? Personne. Bon, passons au point suivant. Alors, mais au cas où quelqu'un qui serait dehors se ferait du souci, il nous écouterait derrière la porte. Je parle juste pour celui-là, je sais qu'ici, ils avaient... Mais au cas où... Écoute bien, ne bouge pas. Reste, voilà, il reste là. Donc, on va lui parler à lui, on fait semblant. Hein. Vous faites semblant de m'écouter, c'est lui. Alors, donc, au cas où quelqu'un se ferait du souci, par exemple pour le vêtement. Bon, il y a des gens, par exemple, je prends Thiébaud, par exemple, au hasard. Non, j'aime bien comme il s'habille Thiébaud. Alors, donc... Donc, imaginez qu'on se fasse du souci. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce souci? Ce souci, tous ces soucis, que ce soit pour... Jésus prend ici les choses de base. Le vêtement, la nourriture. Aujourd'hui, on dirait aussi, je sais pas, on dirait peut-être sous nos latitudes, on dirait le chauffage, avec quoi nous chaufferons-nous cet hiver, ou des choses comme ça. Et ce sont des soucis, des raisons de soucis qui sont très légitimes. Bien sûr, il y a des gens qui... à qui la vie permet de ne pas avoir de soucis parce que par exemple ils ont un bon travail qui leur assure la subsistance de tous ces besoins d'une manière régulière. Donc ils n'ont pas besoin de se faire de soucis. Mais faites gaffe, c'est pas parce que vous n'avez pas de soucis pour ces choses-là que vous avez plus de foi pour les autres. Vous n'avez pas plus de foi, vous avez plus de biens matériels. Ça va, vous me suivez? La seule façon de savoir si on ne se fait pas du souci, ça serait un jour d'en être privé. Et alors là, tout d'un coup, on s'aperçoit que c'est moins simple. Ça allait tout seul quand ça tombait régulièrement. Quand ça devient incertain, c'est plus difficile. Et je crois que Dieu nous permet à tous, dans un domaine ou dans un autre, matériel ou pas matériel, Dieu nous amène tous, de temps en temps, à des situations où on est, où on arrive... hors de nos limites, et où, hors de nos limites, on devient maintenant obligé de savoir si on va compter sur Dieu ou pas, et si on a confiance en Dieu ou pas. Donc c'est nécessaire, de temps en temps, d'être amené à l'extrême, c'est pédagogique, parce que sinon on peut s'imaginer qu'on a beaucoup de foi. Tant qu'on a tout ce qu'il nous faut, on dit, moi j'ai la foi, bien sûr j'ai tout ce qu'il me faut, mais le jour où j'ai plus rien... Eh bien, à ce moment-là, on s'aperçoit si on compte sur Dieu, ou si on commence à rouspéter, ou si on déprime, ou si on s'affole, ou si on va faire, braquer une banque, ou si on va faire, enfin, on fait quelque chose, quoi, hein, ou si on compte vraiment sur Dieu. Et une chose qui m'a beaucoup, que je trouve très, j'allais dire entre guillemets, très inquiétante dans ce passage, mais bien qu'il ne faut pas s'inquiéter, mais ça c'est inquiétant, c'est quand Jésus dit au milieu, attendez voir, j'ai perdu le verset, etc. Le verset 32. À propos de choses qui toutes sont légitimes, et Jésus dit, toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Mais est-ce que nous ne les recherchons pas? Est-ce que ça fait de nous des païens, quoi? C'est ça, je vais la question. Je parle toujours à celui qui écoute là. Mais, donc, est-ce qu'on les écoute? Et est-ce qu'on les recherche? est-ce que dans ce cas-là, on est rendu semblable à des païens? Vous voyez, pour Jésus, cette question est extrêmement simple. Soit on est païen et on se fait du souci pour ces choses, soit on compte sur Dieu et on ne se fait plus du souci. Mais si on se fait du souci, c'est qu'on est un païen. Non, enfin, vous allez me dire, peut-être je suis un peu binaire, hein, mais c'est un peu expliqué comme ça. Et je crois qu'il faut qu'on fasse bien attention. Que, effectivement, la confiance en Dieu, que nous avons en Dieu, c'est une relation que nous devons construire et entretenir, nourrir et faire développer. Parce que ce n'est pas naturel. Nous sommes tous arrivés dans ce monde avec beaucoup de soucis. Est-ce que les enfants ont confiance pour les choses... est-ce que les bébés, les nourrissons, ont confiance pour les choses matérielles? Pas du tout. Dès que leur estomac de bébé commence à gargouiller 2 secondes, ils se mettent à hurler. Pourtant, la veille, ils ont eu 7 biberons dans la journée. Ou 7, enfin, équivalent, quoi. Hein? Bon. Et tous les jours, c'est comme ça. Mais ils ont 3 mois... Ils sentent que ça gargouille. Ils disent, mais j'ai faim. Ouais. Pourtant, ça vient tout le temps, tous les jours, régulièrement. Mais c'est une réaction naturelle. La confiance en Dieu, c'est antinaturel. C'est pas du tout... Personne n'est né avec, au contraire. Donc si nous voulons avoir confiance en Dieu, il faut que nous découvrions Dieu... pour découvrir qu'on peut lui faire confiance, pour décider, c'est d'abord une décision, et puis après c'est une vie. Et c'est pour ça que Jésus part de ces choses qui sont les plus, les premières. Dans l'ordre de nos besoins, manger, c'est la première préoccupation. S'habiller vient aussi rapidement tout de suite après. Et puis après, on va mettre aussi d'autres choses. Mais si on ne peut pas faire confiance à Dieu dans ces choses-là, comment lui ferons-nous confiance pour des choses qui ne sont pas visibles pour la vie éternelle, mais aussi pour ce que nous vivons avec lui, pour les réalisations profondes des aspirations de notre cœur. Donc il faut commencer par ça. Mais ça, ce n'est pas la fin de la confiance. Ça, c'est seulement juste le début. C'est juste les premières pierres pratiques qui nous permettent directement de savoir si on est déjà branché sur la confiance en Dieu ou pas. Par exemple, la confiance pour la santé, 2 Corinthiens 5. Hein, parce que voilà un deuxième souci qui est extrêmement fréquent. Hein, quand on fait un petit peu des... 2 Corinthiens 5, quand on fait un petit peu des sondages pour savoir quels sont les besoins les plus prioritaires des Français, eh bien, c'est sûr que la santé, ça vient toujours en premier dans les stats. Et puis, la sécurité, enfin, etc., des choses comme ça. 2 Corinthiens 5, 4, on lit juste les versets 4, 5, 6, par là. Car tandis que nous sommes dans cette tente... Bon, on ne parle pas de camping, c'est la tente, c'est chacun notre corps. Hein, vous avez de fort belles tentes chacun. Alors, car tandis que nous sommes dans cette tente, dans cette condition biologique, nous gémissons, accablés, parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir de Christ, nous revêtir de l'héritage que nous allons recevoir au ciel, afin que ce qui est mortel dans notre vie physique soit englouti par la vie éternelle. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu qui nous a donné les arts, les promesses de l'Esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Voilà, on revient à la confiance, verset 6. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Et nous sommes pleins de confiance. Et nous aimons mieux quitter ce corps de camping, et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela aussi que nous efforçons de l'être agréable, etc. Mais voyez, dans ce corps, est-ce que nous sommes pleins de confiance avec notre corps, avec notre santé? Comme c'est facile de se faire du souci dès qu'on commence à avoir mal quelque part. Et c'est la même chose que pour l'argent. Il y a des fois des chrétiens qui s'imaginent avoir une foi immense, dans le domaine de la santé. En réalité, ils ont seulement eu le bonheur d'avoir une bonne santé. Mais si vous avez une très bonne santé, ça ne veut pas dire que vous avez de la foi. Ça veut juste dire que pensez à remercier Dieu d'avoir une bonne santé. Mais il y a aussi des païens qui ont aussi une bonne santé. Vous avez des gens qui sont morts, des païens invétérés qui sont morts à 95 ans, et ils ont toujours eu une santé de fer. C'est comme ça, merci. Ils devraient dire merci Seigneur. Mais quand nous souffrons de quelque part, quand nous commençons à avoir mal, quand on commence à se dire, mais au fond, est-ce que ça ne serait pas ceci, cela? Puis alors vous avez des chrétiens qui vous aident. Tu as mal où, là? Ben oui, ben... Ah oui? Oui, enfin bon, ça ne veut rien dire, mais mon oncle qui avait ça... Oui, il a eu très très mal. Oh, qu'est-ce qu'il a eu mal? Il a souffert. Oh, le pauvre! Il est mort dans des conditions terribles. Alors, bon, enfin j'espère que normalement... On essaie de s'encourager plus habilement que ça. Mais ça aussi, c'est un point sur lequel nous voyons quelle quantité de confiance nous avons en Dieu. Mais ce n'est pas toute la confiance en Dieu, c'est seulement la confiance dans un domaine pour ça. Parce qu'on n'a pas tous les mêmes luttes. Vous avez des gens qui ont facilement des luttes avec ça. Dès qu'ils ont mal quelque part, ils voient déjà tout le spectre de, pour eux, dans leur tête, déjà toute l'encyclopédie médicale commence à s'ouvrir et ils parcourent toute la liste de tout. Et puis d'autres, ça ne leur fait pas. Mais par contre, ils auront des difficultés plus dans d'autres domaines. Donc c'est chacun des domaines. Mais c'est représentatif. Est-ce que nous pouvons dire, nous sommes pleins de confiance? En parlant de notre santé, est-ce que nous sommes pleins de confiance par rapport à notre travail, pleins de confiance par rapport à notre employeur, pleins de confiance par rapport à la crise, pleins de confiance par rapport à ce qui va arriver dans la société? Si vous regardez les infos tous les jours et seulement au premier degré, c'est-à-dire en écoutant juste ce qui est dit, ben vous allez baliser. Hein. Franchement, ça ne va pas vous donner le moral, hein. Parce qu'on sait que on n'entend que des mauvaises nouvelles, et ceux qui en donnent des bonnes ont l'air tellement menteurs que franchement ils ne nous rassurent pas. Comme ils nous ont déjà fait le coup du nuage de Tchernobyl, même quand ils nous disent des bonnes choses, on sait que c'est pas vrai. Encore un autre point qui est un grand grand souci, et là on va... Comment je pourrais dire? On va plus profondément, 1 Jean 1,9, on va plus profondément à l'intérieur de ce que nous sommes. Les besoins matériels, c'est une chose, la santé, ça nous concerne déjà de façon plus intime, mais 1 Jean 1,9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La question de savoir si nous avons entièrement confiance dans ce verset, et pas dans ce verset, mais je veux dire dans le principe qu'il met en évidence, est extrêmement important. Est-ce que nous croyons réellement, est-ce que nous avons réellement confiance que Dieu nous a pardonné tous nos péchés? C'est absolument destructeur de vivre avec un doute à ce sujet. C'est encore plus destructeur que d'avoir peur de manquer de pesettes pour demain. Avoir peur de manquer d'argent pour demain, c'est vraiment angoissant. Avoir peur pour sa santé, c'est une grande angoisse. Mais ne pas avoir confiance, ne pas être sûr que Dieu nous a purifié de tous nos péchés, c'est une angoisse pire. Parce que c'est une angoisse qui souvent ne dit pas son nom. C'est une angoisse qu'on n'identifie pas vraiment. On s'est accoutumé à vivre avec. Et ses effets sont insidieux. Ils sont plus pervers. Ils sont pas visibles. On ne les identifie pas comme ça. Mais ce sont des effets qui sont pires. Parce qu'ils concernent pas seulement la vie d'ici-bas. Ils concernent la vie éternelle. Et je crains que quelques chrétiens ne soient pas toujours absolument certains que Dieu les a purifiés de tous leurs péchés. Et ils vivent avec des craintes, hein. Ils vivent avec des doutes, ils vivent avec des inquiétudes, ils vivent avec un sentiment de culpabilité. Et là, de même, je pense qu'on n'est pas tous, comment on appelle ça des fois, on n'est pas tous logés à la même enseigne. C'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes luttes sur ces points-là. Il y a des chrétiens pour qui cette réalité leur a été vraiment clairement révélée quand ils se sont convertis. Et voilà, c'est quelque chose d'acquis, c'est clair, c'est définitif. Mais d'autres ont souvent besoin de se bagarrer avec ça. Et moi, en général, c'est pas mon... Je vais vous dire franchement, en général, j'ai pas beaucoup de lutte avec ça. Pour moi, c'est clair, c'est simple. Jésus est mort sur la croix, et en mourant sur la croix, il est mort pour le pardon de tous mes péchés. Et quand j'ai fait une bêtise, eh bien, je viens au Seigneur et je dis, Seigneur, pardonne-moi, je veux me détourner de ça, Seigneur, avec ta force, je ne veux pas le refaire. Merci de m'avoir pardonné. Quand j'ai prié comme ça, que j'ai dit, merci Seigneur de m'avoir pardonné, pour moi, je sais que c'est classé. C'est classé, c'est fini, c'est définitif. Je sais que je suis devant Dieu comme si je ne l'avais pas fait. Parce que c'est ça, être purifié de ses péchés. Si Dieu continuait de nous garder tout ça sur une ardoise et qu'il nous garde encore un contentieux, ben alors on n'est pas avancé. Voilà. Mais ça m'est arrivé quelquefois, rarement, ça m'est arrivé des fois de me sentir comme une... Je me sentais pas bien et j'avais le sentiment d'être un sentiment de culpabilité quoi. Mais sur rien, je dis mais au fond mais c'est à cause de quoi ça? Et j'ai dit non, je refuse, je lutte contre ça. Et quand on et souvent je demande quand tu parles de thèmes comme ça, quelquefois je dis qui parmi nous est juste? Quels sont ceux qui sont justes devant Dieu? Levez la main. Alors souvent les chrétiens n'osent pas trop parce que ça a l'air de se croire parfait, etc. Je dis, mais moi je lève la main, je suis juste. Je ne suis pas juste parce que je suis parfait, je suis juste parce que Jésus me rend juste. Je suis juste parce que Dieu me rend juste. Si nous avons été justifiés, être justifié, ça veut dire qu'on est juste. Ou alors c'est justifié, ça veut dire quoi? Voilà, donc je suis justifié, donc je suis juste. Si on demande qui est juste, moi je lève la main. Une fois, ça m'a fait des histoires, c'était en Afrique, un pasteur avait demandé quels sont ceux parmi nous qui sont justes, et moi j'ai levé la main, j'allais dire bêtement non, parce que j'y crois. Mais alors après, il m'a pris un exemple, voyez, les blancs qui se croient parfaits, plus que tout le monde. Bon, j'ai eu beau essayer de m'expliquer, j'étais un peu mal parti. Mais bien sûr, il partait du principe, Paul dit... Y a-t-il parmi nous des justes? Y a pas de juste, pas même un seul. Mais ça, je suis d'accord aussi. Quand je suis arrivé sur la terre, j'étais pas juste. Et je me suis pas comporté de façon juste. J'étais pas juste, pas plus juste que personne. Mais ça, c'était ma condition avant que Jésus ne me justifie. Je suis d'accord avec ça. Mais maintenant que je suis justifié, je suis juste. Voilà. Et vous aussi. Nous sommes tous justes. C'est l'assemblée des justes. Hein? Bon, on peut pas l'écrire comme ça sur la porte, ça va être mal compris, mais c'est quand même l'assemblée des justes. Mais ce qui me frappe quelquefois, c'est que pour certains chrétiens, ces choses-là sont connues et sont vraies, mais seulement intellectuellement. Dans leur tête, c'est clair. Si on leur demandait, est-ce que vous êtes juste, ils diraient oui. Est-ce que vous avez été pardonné de vos péchés, ils diront oui. Mais dans leur cœur, ils fonctionnent avec des reliquats de culpabilité. Ils fonctionnent avec des restes de reproches. Ils se font à eux-mêmes toujours des reproches. J'aurais pas dû ci, j'aurais dû ça. Et pourquoi j'ai fait ça? Et qu'est-ce que Dieu pense de moi? Et oui, mais quand même, moi j'aurais... Mais alors tout ça, c'est un manque de préhension de ce qui nous a été réellement donné. Et ça, c'est difficile, ça vous empoisonne. Et il faut résister à ça. C'est pas de l'orgueil, c'est pas de la suffisance que de vouloir être juste et fonctionner comme juste. C'est ce que la Bible dit qu'on est. Soit à ce niveau-là, voyez, à ce niveau-là, quand Jésus nous dit de redevenir des enfants, voilà, à ce niveau-là, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Hein. Mais n'acceptez pas de fonctionner avec de la culpabilité. N'acceptez pas ça. Si vous êtes coupable, si vous n'avez pas confessé vos péchés, si vous n'y avez pas renoncé, alors c'est clair, il faut renoncer. Alors il faut se repentir, il faut venir au Seigneur et lui demander pardon, lui demander la force d'abandonner le péché, d'y renoncer, lui dire « Seigneur, si tu m'aides, je ne le referai plus et je vais me comporter autrement parce que c'est toi qui me donnes la force. Mais merci de ce que le sang de Jésus vient au-dedans de moi pour me purifier. » La coupe qu'on a prise tout à l'heure, c'est la coupe qui parle du pardon de nos péchés. On n'a pas fait l'aspersion, on l'a avalée. Il est venu en nous. Donc il nous a purifiés intérieurement, pas superficiellement comme l'aspersion du sang dans l'ancienne alliance, du sang de la loi. Non, ce n'est pas en surface, ce n'est pas l'aspersion. Jésus n'a pas dit, prenez de cette coupe et aspergez-vous. Il a dit, buvez-en tous. Et il est venu au-dedans de nous. Nous avons été purifiés réellement. Il faut fonctionner avec ça. Résister à la culpabilité. Si vous avez des problèmes avec ça, ça vous démolit, ça vous enlève la joie, ça vous enlève la paix, ça vous enlève la volonté d'adorer. Comment adorer Dieu librement avec en même temps des reproches intérieurs? C'est pas possible. Même si vous n'êtes pas conscient que c'est à cause de ça, vous n'avez pas envie d'adorer. Vous voulez adorer, alléluia, le diable dit, je suis là. Hop, hop, les bras retombent. Ils font 2 tonnes chacun, c'est fini, parce qu'on n'a plus de joie, parce qu'on se sent désapprouvé. Mais Dieu nous approuve, nous sommes ses enfants qu'il aime. Il nous faut avoir confiance en Dieu. Cette confiance, elle se nourrit. Il nous faut avoir confiance que nous sommes conduits par Dieu. Nous ne sommes pas conduits par Dieu à condition que... Être bien conduit par Dieu, c'est pas un parcours curieux, c'est pas un gymkhana, c'est pas quelque chose de spécial. La Bible dit que si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Voilà, c'est tout, c'est simple. Pourquoi est-ce qu'on se donne tant de peine des fois pour compliquer des choses simples? Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Moi, je pars du principe que Dieu me conduit, nous conduit, conduit ma famille, conduit ce qu'on fait. Parce que nous sommes enfants de Dieu. On n'est pas enfants de Dieu seulement quand on est parfait. On est enfants de Dieu parce qu'on est enfants de Dieu. Nos enfants ne sont pas nos enfants quand ils sont gentils. Ils sont nos enfants quand ils sont nos enfants. C'est-à-dire tous les jours. Quand ils sont gentils ou pas gentils, ils sont nos enfants. Quand on est enfants de Dieu quand? Quand on est parfait. Alors Dieu dit aujourd'hui, pas aujourd'hui, non. Ça marche comme ça? Ben vous avez un drôle de Dieu, hein? Il est inconstant. Alors là, bien sûr, si Dieu était comme ça, alors on ne sait plus à quel saint se vouer. Mais non, il ne faut plus dire ça. Dis pas ça. Alors, mais Dieu n'est pas comme ça. Nous sommes ses enfants tout le temps, tous les jours, tout le temps. Donc Dieu veut tous les jours, a mis son Esprit Saint en nous, et il veut tous les jours nous conduire. Et quand on reçoit de Dieu une conviction qu'on doit faire quelque chose, eh bien même si quelque temps plus tard on ne ressent plus cette conviction, moi je fais confiance que Dieu me l'avait donnée. Je dis aujourd'hui je ne ressens rien, Jean-Marie, quand tu as décidé de faire ça, tu étais convaincu que c'est Dieu qui te dirigeait, donc je décide que je fais confiance. Quand on n'a pas de confiance, c'est sans fin. Regardez Gédéon qui n'était pas sûr qu'il devait aller. Il a dit, Seigneur, oh Seigneur, oui d'accord, j'y vais, mais j'aurais bien un petit signe encore en plus. Il avait besoin encore d'un petit signe. Il y a des gens qui ont besoin toujours de signes, de révélations comme ça. Il y avait un monsieur, il voulait faire quelque chose, il habitait dans la campagne, vers un endroit, il y avait un marigot, une mare, voilà. Il y avait une petite mare comme ça. Et il a dit à sa femme, il a dit, je vais demander à Dieu qu'il me montre vraiment, qu'il me donne une révélation, si je dois faire ça, il voulait le faire. Et il a dit, si demain matin, quand je me réveille, je vois 2 canards dans la mare, c'est que je devrais le faire. Et le lendemain, quand il a ouvert les volets, il y avait des canards partout. Il a dit à sa femme, alléluia, c'est un signe. Sa femme a dit, non, c'est pas un signe, c'est un canard. Et il y a des gens qui fonctionnent beaucoup. Et des gens qui fonctionnent beaucoup avec les canards, je veux dire avec les signes. Mais leurs signes sont que des canards. Quand Gédéon a eu son signe, eh bien, il lui en fallait un deuxième. Et puis après, il n'était encore pas sûr. Puis après, il n'était encore pas sûr, même avec des miracles. Si vous marchez pas dans la confiance, rien ne vous donnera des certitudes. Par contre, si vous avez la confiance, vous n'avez même pas besoin des canards. Je veux dire, des coffres, oh, des signes. Alors, est-ce que nous avons confiance en Dieu quand Dieu ne nous parle pas? Bien sûr, Dieu nous parle. Bien sûr, Dieu veut nous, s'adresse à nous. Mais Dieu n'est pas obligé de nous parler de façon quasi audible chaque fois qu'on aimerait. Alors, vous avez des gens, quand ils n'entendent plus, quand ils n'entendent plus Dieu leur parler, quand ils n'ont plus des manifestations spéciales, quand ils n'ont plus reçu une prophétie, quand ils n'ont plus... Oh là là, alors ils sont tout désarçonnés. Mais est-ce que nous marchons avec l'Esprit de Dieu qui est en nous ou avec des choses qui doivent arriver toujours de l'extérieur? L'apôtre Paul dit que la foi ne consiste pas à marcher par la vue. Mais marcher par la vue ou par l'oreille, c'est pas plus spirituel. Il y a des gens qui ne marchent qu'à condition d'entendre toujours des tas de prophéties ou des choses comme ça. Mais marchons avec ce que Dieu fait vivre au-dedans de nous. Et chaque fois que Dieu veut nous parler, c'est bien. Alléluia, c'est une bonne chose. Mais il nous faut apprendre à nourrir, à développer cette confiance. Encore, on peut lire Éphésiens 3, 12. En lui, c'est-à-dire en Jésus-Christ, en lui, nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Nous pouvons nous approcher de Dieu avec confiance. S'approcher de Dieu, ce n'est pas un parcours initiatique. S'approcher de Dieu, ce n'est pas une espèce de course aux obstacles dans lesquels il faut franchir des pas, des phases. Nous avons la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Pourquoi? Parce que nous le faisons en Jésus-Christ. Or, l'œuvre de Jésus est finie. Elle est accomplie. Elle n'est pas encore à faire pour chacun de nous personnellement, les uns après les autres. Une fois pour toutes, Christ a tout accompli. Ceci est fait. Et si nous sommes chrétiens, nous sommes en Jésus-Christ. Et si nous sommes en Jésus-Christ, alors nous avons, par la foi en lui, la liberté de nous approcher de Dieu avec confiance. Il va nous recevoir. Quelquefois, quand on demande quand on sollicite une entrevue auprès d'une personnalité, on n'est pas sûr qu'est-ce qui va nous recevoir, pas nous recevoir. Mais nous pouvons, auprès de Dieu, nous approcher avec confiance. Nous avons une liberté. C'est comme si on avait une carte permanente, un passe-droit. On a quelque chose, un badge. On a un badge qui nous permet de nous approcher du trône de la grâce en permanence, avec confiance. Il n'y a pas un sous-fifre là, un secrétaire qui va dire « Monsieur, qui êtes-vous? Où allez-vous? Où avez-vous le droit ?» Oui, j'ai mon badge. Voilà, j'ai mon badge. Enfant de Dieu, racheté en Jésus-Christ. Frères et sœurs, je voudrais juste... J'avais vraiment ce matin cette idée de nous encourager à vraiment marcher dans cette confiance. Et j'ai trouvé intéressant que même ce matin dans la prière, plusieurs des prières ou plusieurs paroles disaient nous n'avons pas à nous préoccuper des valeurs du monde. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas gérer ce que Dieu met sous notre main. Et on va le faire avec sérieux, on va le faire avec réalisme. Mais ce n'est pas notre préoccupation. Ce n'est pas notre motivation. Et surtout, ça ne devrait pas être notre souci. Si on supprimait de certaines de nos journées tous les soucis, on a certaines de nos journées qui seraient vraiment transformées. On a des journées qui seraient vraiment transfigurées si on pouvait seulement enlever les soucis. Alors, ce qui est curieux, c'est que pour Jésus, le fait de se faire du souci, c'est justement la définition d'être incroyant. C'est la définition d'être païen. Mais je dis, à ce moment-là, il faut quand même qu'on soit clair, qu'on soit lucide avec nous-mêmes. Depuis que nous sommes chrétiens, est-ce que nous avons fait des progrès avec ça? Est-ce qu'on a seulement reçu, au moment où on s'est converti, une certaine base de sécurité, puis après on fonctionne avec ça? Ou est-ce qu'avec le temps, ça va grandir? Est-ce qu'on va faire des progrès? Est-ce qu'on va nourrir cette relation avec Dieu de façon à ce que notre confiance soit toujours de plus en plus grande? Parce que même à l'intérieur de l'Église, on a des tas de soucis. Est-ce que dans cette église où je suis, les frères et sœurs m'aiment réellement? Est-ce que dans cette église, je suis bien considéré? Est-ce que si je fais quelque chose, est-ce que ça va être bien accepté? Est-ce que si je m'engage dans ça, est-ce que je vais réussir? Et si je réussis pas, est-ce qu'ils vont me critiquer? Et voilà. On a des soucis comme ça. Vous voulez que je vous en donne encore quelques-uns comme ça? Non, je ne voudrais pas vous décourager. Mais on peut être dans le culte lui-même, être en souci. Et on peut faire même l'œuvre de Dieu avec beaucoup de soucis, avec beaucoup d'inquiétudes, avec beaucoup de stress, avec beaucoup de pression, avec beaucoup de on est, par exemple, on peut beaucoup être fragile. Certains sont très sensibles à qu'est-ce que les autres pensent de ce que je dis, qu'est-ce qu'ils pensent de ce que je fais. Par exemple, moi, je peux me dire qu'est-ce qu'ils sont en train de penser de ce que je suis en train de prêcher. J'ai vu quelqu'un qui me regarde avec des yeux, je ne sais pas, est-ce que c'est parce qu'il est vraiment captivé ou alors il ne comprend rien, je ne sais pas. Alors, vous voyez, je peux me faire du souci, mais je refuse, au nom de Jésus. Ne fais pas du souci, il va comprendre. Est-ce qu'on peut dire, Seigneur, aide-moi à renoncer au souci. Aide-moi à renoncer à l'inquiétude. Aide-moi à chasser le manque de confiance en toi. Aide-moi à me débarrasser de ça. Aide-moi à fonctionner autrement. Aide-moi à avoir vraiment cette vision que, Seigneur, ce que tu fais dans ma vie, ton projet est un bon projet, qu'il est juste, qu'il se réalise et que je suis en train de devenir exactement ce pourquoi tu m'as créé, jour après jour. Si vous fonctionnez tout le temps en vous disant, je suis en train de passer à côté de ma vie, je suis en train de passer à côté de mon appel, je suis en train de passer à côté de mon destin, je suis en train de... Mais ça vous démolit. Ça, c'est triste. Ça détruit intérieurement. Mais est-ce que notre Dieu qui est grand va nous laisser nous dilapider comme ça, nous perdre? Non, attends, c'est notre Père ou pas? Moi, je ne laissais pas, mais je n'aurais pas laissé mes enfants petits se partir dans des mauvais chemins. Pourquoi Dieu le ferait-il avec nous? Donc, on doit avoir, c'est pas qu'on doit, c'est qu'on peut lui faire confiance. Et donc, nourrir et lutter pour cette confiance, c'est un projet légitime. Soyons sensibles aux alarmes qui s'allument dans notre petite tête, les alarmes de l'inquiétude. C'est comme des fois, c'est comme des lumières rouges. Tout d'un coup, on commence à se sentir pas bien, on est mal à l'aise, et finalement, des fois, si on fait attention, on se dit, mais au fond, à cause de quoi? Et alors peut-être, on se dit, ah oui, c'est parce que je me sens coupable, c'est parce que je suis inquiet, c'est parce que j'ai peur, et toutes ces choses-là. Et alors, si on n'y fait pas attention et si on ne les traite pas, eh bien, on les laisse simplement comme ça s'installer, demeurer, et puis on va essayer de mettre quelque chose par-dessus pour ne pas y penser. Mais la question, ce n'est pas de ne pas y penser, la question, c'est de traiter l'inquiétude pour la rejeter. Si vous mettez simplement par-dessus deux ou trois chants gais, enfin, je veux dire joyeux, si vous mettez deux, trois chants joyeux par-dessus, eh bien, ça va rien faire. Le problème, il reste en dessous. Il ne faut pas mettre des chants joyeux par-dessus les problèmes pour dire je vais quand même me comporter joyeusement. Parce qu'on peut se comporter joyeusement, et puis, y a la rouille dessous. Si vous avez une barrière, une balustrade qui est toute rouillée, vous mettez un coup de peinture dessus pendant quelque temps, elle a l'air peinte. Mais la rouille est dessous. Elle gratte. Et puis le jour où cette couche de peinture de nouveau s'écaille, on s'aperçoit que le mâle, pendant ce temps, a fait beaucoup de progrès dessous. Et maintenant, on ne peut même plus décaper, il faut... Hein? Alors, il ne s'agit pas de mettre des chants joyeux, il ne s'agit pas de faire semblant, il s'agit de traiter l'inquiétude comme étant une source illégitime de problèmes. Nous pouvons avoir confiance. Toutes ces choses, dit Jésus, ce sont les païens qui les recherchent. Mais il n'en est pas ainsi au milieu de nous. Nous avons confiance en Dieu, parce que nous avons foi en Dieu. Donc on va fonctionner avec foi. Et quand on prie pour la pluie, on vient avec son parapluie. Mais là, on a prié pour le soleil, donc on est venu avec des vêtements légers. Merci Seigneur.